Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben, j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. C'est la dernière de la semaine et on va bien en profiter avec toute la bande réunie autour de la table aujourd'hui. Et avec notamment Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Le chef du service culture de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Qui a plein de choses à dire sur ce qui s'est passé hier.
Oh là là, Laurent,
il jubile, il boit du petit lait.
Je suis remonté comme une pendule.
Mais je sais, je sais. Nous sommes également avec la journaliste indépendante de Dijon. Et Dieu sait qu'il s'est passé des choses à Dijon hier soir. Emmanuel Dancourt. Emmanuel.
Plein de choses à dire sur Dijon également. C'est pour ça que je me réfugie à Paris. Bonjour Estelle.
Je suis pas sûre que ce soit un bon plan de se réfugier à Paris en ce moment. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Et puis, notre journaliste maison, Fred Hermel. Salut, Fred.
Salut, Estelle. Salut à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, des manifestations improvisées un peu partout hier soir. 310 interpellations, périph' bloquées ce matin à Paris. Êtes-vous inquiet au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites avec le 49-3? On attend bien sûr vos commentaires, vos réactions au 32-16 et sur l'appli RMC. Elisabeth Borne, fragilisée par le 49-3. La première ministre doit-elle démissionner? Elle fête aujourd'hui ses 10 mois à la tête du gouvernement. Elisabeth Borne, c'est pas un super anniversaire. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et puis à 14h, selon le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires, il faudrait faire disparaître les moyennes et les comparaisons entre élèves. Doit-on supprimer les notes à l'école? Là encore, on attend toutes vos réactions au 32-16.
RMC, Estelle Midi.
1006 sur RMC et on va démarrer avec l'actualité du jour et ce sont bien sûr les manifestations spontanées un peu partout en France hier soir, quelques heures après l'annonce du recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. 310 interpellations ont eu lieu partout en France hier soir, Rémi, la plupart à Paris.
Oui, et ce matin encore à Paris, justement, une centaine de militants de la CGT a envahi le périphérique, bloquant la circulation des automobilistes durant une grosse demi-heure avant finalement de se disperser. Hier, tu l'as dit, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées à travers toute la France pour faire entendre leur colère une fois le recours au 49-3 connu. C'est notamment le cas à Nantes, à Rennes, où il y a eu des incidents, des dégradations, ou encore à Dijon, où des syndicalistes et des militants sympathisants de la NUP se sont rassemblés place de la République. Des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne et d'Olivier Dussopt ont été imbibés d'essence avant d'être brûlés. Manifestation également à Paris, place de la Concorde. Ils étaient entre 5000 et 10000, dont des éléments radicaux, dégradation, là aussi affrontement avec les forces de l'ordre. 258 interpellations ont été effectuées dans la capitale, 310 à travers tout le pays, et s'ils ne cautionnent pas les violences, les opposants à la réforme, syndicats ou représentants de la NUPS, soutiennent ces rassemblements spontanés ou ces actions coup de poing et appellent même à les amplifier. De son côté, la patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, a demandé au ministre de l'Intérieur de mettre en place des mesures de protection pour les parlementaires de la majorité.
Incroyable.
Dans la crainte de représailles qui pourraient les viser.
Est-ce que cette situation vous inquiète, Fred Hermel?
Oui, cette violence m'inquiète. J'ai été extrêmement choqué par les images de ces mannequins du président de la République, de la Première ministre, Olivier Dussopt, brûlés. Ce ne sont pas des images qu'on voit en France normalement. Okay. On le voit depuis un petit peu de temps, on le voit dans certains pays que nous on regarde depuis notre grandeur en disant oui, mais enfin ce sont des sauvages là-bas. Et non, mais c'est vrai quand ça se passe dans des pays lointains,
on se dit
chez nous c'est pas possible, on en arrive là. Je trouve ça très violent, et la déclaration d'Aurore Berger, cette demande de protection des députés, c'est pas des fanfaronnades, hein. Je pense qu'il y a
Darmanin a dit oui, hein. Il a demandé au préfet d'assurer la sécurité des élus,
c'est parce qu'il y a un vrai risque. On voit que
il y a un vrai risque, vous en savez rien.
Quand on voit toutes les agressions d'élus depuis ces dernières années, là, la violence d'hier soir dans les rues de plusieurs villes de France, dont Paris. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Enfin, ça va, c'est une loi, quoi. Je veux dire, c'est pas un sujet.
C'est spontané, hein.
Ben, oui, que, voilà. Oui, enfin, spontané, mais alimenté par la NUP. Parce que eux, ils vont devoir répondre, hein, des violences, hein. Parce que je viens d'écouter Rémi Barré, hein, voilà, des actions soutenues par la NUP, hein, en disant qu'ils ont
non,
demandé.
Mais la NUP, ça n'a pas demandé à ce qu'il y ait des violences. Attention,
non. Quand il y a des manifestations spontanées. Voilà. Mais c'est la raison. Les élus de la NUP, en tout cas, les représentants de la NUP qui ont pris la parole, ainsi que les représentants des syndicats, ont dénoncé les violences.
Exactement.
Oui, mais sauf que la violence qu'il y a au Parlement, la violence dans les mots de la NUP depuis quelques semaines, et le fait d'appeler à ce genre de manifestation non autorisée, parce que spontané veut dire non autorisé. Donc, où il n'y a pas les services d'ordre habituels pour contrôler. Parce que ça s'est plutôt bien passé, les manifestations. Parce
très
que, il y avait les grands bras de la CGT, de la CFDT qui étaient là, et qui ont très bien fait leur boulot, et qui ont collaboré avec la police. Ce genre d'événement, il y a autant de violence parce que c'est spontané. Parce que c'est pas encadré. C'est pas permis par le préfet de police. Donc moi, cette violence m'inquiète. Et, et ne me semble bien entendu pas du tout justifié. On est quand même sur une réformette
pour vous,
de la loi.
Non mais pour vous, c'est pas justifié. Mais,
non,
mais
la violence n'est pas justifiée dans une démocratie comme la France.
Je dis pas que je dis pas que ça se justifie. Mais quelque part, après, il faut savoir si c'est une radicalisation ou un accès de colère. Voilà, tout simplement. Et c'est ça la question qui se pose aujourd'hui aussi, Emmanuel Dancourt.
Oui, moi aussi, je suis inquiète, pour être tout à fait honnête, parce que la violence, c'est une spirale. Une fois que la spirale, elle est partie, elle est quand même difficile à arrêter. Et à mon avis, la violence ne se justifie jamais. Jamais, jamais. Et quand on voit dans ma ville, qui est une ville plutôt calme hein, à la base, qu'on brûle sur la place de la République, des mannequins, donc tu l'as dit, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron... Olivier Dussopt et Olivier Véran aussi, le quatrième. Moi, là, je comprends plus, ça dévisse et je ne comprends pas comment on justifie ça en disant on n'a plus que ça, mais c'est pas vrai, il n'y a pas plus que ça. Le droit de manifester, c'est un droit absolu, mais le droit de manifester paisiblement, pacifiquement, c'est un droit aussi. Et je pense qu'en faisant ce genre d'action, qui est l'action que de quelques-uns, il n'y avait pas grand monde hein, à Dijon. D'après la CGT, c'était entre 500 et 1000 manifestants.
Enfin,
la préfecture annonce 700. C'est pas énorme, mais il suffit d'un, hein, de toute façon, pour faire brûler des mannequins ou de quelques-uns. Et je pense pas que ce soit une manière de faire, ni dans l'éducation de nos jeunes, ni dans une manière de répondre. Au contraire, élaborons des arguments. Quand j'entends, ce matin, j'écoutais les GG où j'entendais dire, mais il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça. Mais c'est pas vrai. Aux prochaines élections, votez pour des gens qui vont annuler la réforme.
Bah, bien sûr. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'attendre 4 ans.
Ouais, mais de là à aller à la violence, moi, je trouve ça hyper inquiétant. La place de la République à Dijon, elle est juste à côté d'un très gros lycée qui s'appelle le lycée Carnot, où sont scolarisés mes jumeaux. Ils sont forcément passés par là. La première chose que j'ai fait, j'ai écrit à mes jumeaux en disant « Est-ce que vous êtes passés par la place de la REP ?» Et j'ai appris que mon neveu y était, lui, pas mes fils en l'occurrence. Et qu'est-ce que ça dit à nos enfants, quoi? Qu'il y a que ça à faire, on brûle des mannequins. Il y avait déjà eu, hein, à Marseille, vous vous souvenez, la poupée d'Elisabeth Borne qui a été pendue.
Ah oui, c'est insupportable.
Et c'est pas possible. Ouais. C'est pas
possible. Et on avait eu aussi un élu, je n'ai plus son nom qui me revient en tête, de la NUPS, de la France Insoumise, qui s'était fait prendre en photo avec un ballon.
Thomas Porte, exactement.
Ballon
avec Elisabeth Borne.
Exactement.
Est-ce qu'on peut les comprendre, ces manifestations de colère, pour vous, Laurent Nandré?
Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre l'intensité de cette colère, parce qu'on parle de quoi? On parle d'une réforme des retraites. On ne parle pas d'une loi scélérate qui supprimerait une liberté fondamentale, la liberté d'expression, je ne sais trop quoi. On peut être d'accord, moi je pense comme 90% des Français que c'est une mauvaise réforme. Voilà, on peut être un peu en colère, on peut être un peu énervé, mais... J'ai du mal à m'expliquer ce déferlement de violence, d'autant que voilà, alors c'était il y a une autre époque, 2010, mais en 2010 on était passé de 60 à 62 ans, il y avait eu des manifs, mais ça s'était passé relativement dans le calme. Donc ça dit quelque chose quand même d'un état d'exaspération généralisé, bien sûr. Mais il y a un état d'exaspération, il y a aussi malheureusement une hystérisation du débat politique qui est extrêmement inquiétante, parce que par ailleurs, effectivement, Fred l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il a raison, c'est qu'on ne peut pas ne pas relier ça à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai déjà été extrêmement choqué que Elisabeth Borne, montant à la tribune pour présenter sa réforme, elle est huée avant même d'avoir le temps d'avoir dit un mot. C'est aberrant. Enfin, cette transformation de l'Assemblée par la NUPES en un meeting permanent où on agite des pancartes, on chante, on crie, on hurle et on ne laisse surtout parler personne. On est déjà dans une hystérisation qui permet ensuite ce genre de dérive. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que je suis quand même très étonné d'entendre et les syndicats et les partis de gauche se féliciter non pas des violences, mais de la radicalisation du mouvement, parce que je pense que cette radicalisation du mouvement, c'est la seule planche de salut qui reste à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ça va lui permettre de jouer le rôle du parti de l'ordre, et c'est vraiment pour lui, je pense, la seule façon qu'il a de pouvoir détacher l'opinion publique de ses opposants.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, juste, Rémi, vous êtes sur l'appli RMC, il y a quand même beaucoup de messages ultra violents.
Je vais pas les lire.
Non, on va pas les lire, mais ça reflète quelque chose.
Oui, oui, absolument. C'est des messages extrêmement violents à l'égard du gouvernement, de nous aussi, hein, parce que nous, journalistes, et c'est vrai que c'est des appels à aller directement, en venir directement à la violence, ouais.
C'est ça, et c'est la plupart des messages que vous...
Il y a une désinhibition qui est complètement dingue, je trouve. Là, je ne sais pas, je vous entends, je découvre qu'il y a des messages ultra-violents, Rémi tellement violents qu'il n'ose même pas les lire.
Je ne vais pas les lire, parce que c'est des appels à la violence.
Donc. Désinhibition totale de ces gens-là, et Dieu sait qu'on est, je crois, tous d'accord pour dire que ce n'était pas la bonne réforme, mais pas au bon moment.
Mais je pense que cette désinhibition, elle est permise, effectivement, par les partis de gauche qui entretiennent ce climat de violence politique.
Un ballon avec la tête d'un politique.
Non, mais il n'a pas tapé dans le ballon.
Il a posé sur le ballon.
On parle d'un député qui a posé avec l'écharpe tricolore le pied sur un ballon.
Simulant la tête.
Oui, enfin,
la tête coupée.
Le ballon, c'est fait pour quoi? C'est pas fait pour taper dedans.
Je suis d'accord, Fred.
On trouve des excuses tout le temps, mais en vrai, c'est pas possible, quoi. Si un ballon qu'on met de pied, c'est. Non, si, c'est grave.
C'est pas bien, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est pas que c'est pas grave.
Le ballon simulait une tête tranchée.
Le problème, c'est qu'ils entretiennent le mythe d'un déni de démocratie. Le 49.3 n'est pas un déni de démocratie, c'est dans la Constitution, et ils ont moyen de répondre lundi, ça va être intéressant cette émission pour ceux qui y seront lundi, puisque ce sera avec le délai de 48 heures, les motions de censure. Là, ça va être hyper intéressant de voir ce qui va se passer. La démocratie, elle est en route, quoi qu'il arrive.
Après, en fait, s'il y avait eu un vote... La colère n'aurait pas été celle-là.
Faut pas s'imaginer que parce que il y aurait eu un vote avec trois voix de majorité, tout à coup les syndicats auraient dit
ils auraient fait l'immunisation, mais il n'y aurait pas eu cette violence.
Non, je suis pas d'accord du tout. C'est un prétexte. La violence, elle est là depuis le début. On la sent monter.
Vous avez vu ce qui était marqué sur les pancartes? C'est marqué tout niquer devient vital. À bas l'État, les flics et le patronat. Fuck la bourgeoisie. On va tout péter, brûlons tout. Moi, il y a une pancarte qui m'a mis brisé le cœur, c'était à la manifestation d'Auxerre dans le 89, et quelqu'un qui avait écrit « C'est tellement la merde » sur sa pancarte, « C'est tellement la merde qu'on ne sait plus quoi écrire. » Et là, je me dis, je trouve que c'est la pancarte la plus juste que j'ai pu lire.
Alors, on est avec Mickaël, qui est restaurateur et qui nous appelle de Fontainebleau. Bonjour Mickaël.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et Mickaël voulait réagir à ce débat. Est-ce que vous, la violence qu'on a vécue hier soir dans plusieurs villes de France, est-ce que cette violence vous inquiète, Mickaël?
Non, ne m'inquiète pas plus que ça. C'est la suite logique des événements.
Ah bah non.
C'est comme quand... Ah, excusez-moi, quand vous avez quelqu'un qui... Je dis des bêtises, hein, mais on retrouve, on va dire, un niveau macro, ce qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un, il vous parle gentiment une fois, s'il te plaît, arrête. Arrête une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À un moment, il y a une gifle qui part à un moment ou à un autre, quoi.
La gifle est interdite, hein, vous savez.
Non, mais je dis ça, mais je parle de... excusez-moi, vous avez quelqu'un qui vous embête tous les jours. Arrête de m'embêter. À un moment, c'est ça. La seule chose le message envoie, c'est qu'à l'époque où Macron, des gilets jaunes, son service de sécurité qui a été fait par un report, on a appris ça dans le reportage que BFM avait fait, de chez vous, quand ils lui ont dit, écoutez, samedi prochain, on met un hélico dans le jardin, il se peut qu'on vous évacue de force, commencez à cacher vos dossiers, on met de la sécurité. Macron l'a eu à la télé tout blanc, ouais, c'est bon, j'ai compris.
Oui, non, mais on est dans totalement autre chose, Mickaël. Mais la violence, en fait, aujourd'hui, elle est passée, la réforme. Le 49-3, ça y est, c'est bon, c'est passé. Oui, à la limite, non, mais ce qui est terrible. Mais
la démocratie, c'est savoir perdre. Bah pourquoi ils n'ont pas mis au vote? Ils perdent, ils ont perdu.
La démocratie, c'est savoir perdre. On peut dire aussi ça aux gens qui foutent le feu aux poubelles. La Constitution a permis à cette loi d'être adoptée. On peut le regretter, mais c'est le jeu de la démocratie. Il faut savoir perdre aussi.
Et le 49-3 fait partie de la démocratie. On peut le déplorer, Mickaël. Mais aujourd'hui, c'est légal.
Ce qui est chiant pour les gens, pourquoi les gens ils viennent, c'est quand on est pris pour un con. C'est l'expression. Quand on apprend hier soir, d'après vos sources à vous, BFM, que tout ça, c'est pour faire plaisir à l'Europe, pour pas baisser sur la cotation, et que ça fait 3 mois qu'on nous prend pour des comptes. Non, mais vous comprenez, c'est mieux pour vous,
Non mais personne n'a dit que c'était mieux pour nous. En fait, ce qui est sûr, c'est que voilà, il va y avoir un déficit des retraites en 2030. Évidemment, il faut faire plaisir à l'Europe, mais c'est aussi
pour consentement lorsque la voie pacifique ne marche pas.
Ouais, mais non, mais Mickaël, là quand même, il y a eu de la casse, il y a eu des interpellations, ça aurait pu vraiment dégénérer.
Pourquoi? Ça vous étonne? Mais c'est ça que j'ai. Est-ce que ça vous inquiète? Non, c'est ce que j'ai expliqué à Hubert.
Ça m'étonne pas, mais je le déplore, Mickaël.
Voilà, c'est ça. Ça étonne.
Je le déplore profondément.
Ils sont là pour prévoir cela. C'est-à-dire l'État, ça sert à quoi? C'est pour anticiper. S'ils réagissent comme des gamins, c'est pas l'État alors.
Il y aura un vote. Il y aura un vote lundi. Il y a trois motions de censure qui vont être déposées. Il y aura un vote lundi. Donc lundi, il y a moyen d'agir, c'est-à-dire en l'occurrence de faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais faudra-t-il encore qu'il y ait suffisamment de députés qui votent la motion de censure? Ces députés, ils ont été élus par le peuple.
Exactement. Merci Mickaël en tout cas d'avoir été avec nous. Et Mickaël dit un truc intéressant, il dit le gouvernement aurait dû anticiper. Et c'est vrai quand même à un moment, Fred Hermel, que on la sent monter la violence. Ne serait-ce que chez nous, Estelle Midi, on les voit, les appels, on les entend, les appels des auditeurs, et on la sent monter la colère, on le dit souvent d'ailleurs, depuis plusieurs semaines. Et on a l'impression que le gouvernement débarque et se dit, ah ben il y a de la violence, dis donc. Enfin, ils auraient pu anticiper qu'il y allait avoir de la violence. Nantes-Rennes, ça n'étonnera personne, excusez-moi, qu'il y a de la violence à Nantes, genre bon. On aurait pu s'y attendre et mettre quelques CRS.
Quand Dijon rentre dans la danse, c'est que ça monte.
Dijon, on pouvait pas s'y attendre. Mais alors, Nantes et Rennes, quand même.
Oui, mais enfin, les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement, quand même.
Ils
étaient en alerte. Je pense que le gouvernement n'avait pas annoncé. Attention, quand il y a une manifestation, on annonce le nombre de policiers. Le gouvernement n'allait pas annoncer des mesures en cas de manifestation spontanée. Voilà. Donc, je pense que tout était prêt. D'ailleurs, les forces de l'ordre ont été présentes très vite. Et les pompiers, je les ai entendus dans Paris, ils étaient là. Je pense qu'il n'y a pas de. On a parlé d'un certain chaos. Enfin, le pays n'a pas été retourné non plus. Je veux dire, il y a eu des violences très précises. Mais les forces de l'ordre ont fait leur travail. Elles étaient prêtes à intervenir. Donc
la question,
c'est pas la réponse policière. La question, c'est est-ce que effectivement cette montée en puissance de la colère et de la violence a été entretenue par des maladresses, un signe de communication? Et là, évidemment, la réponse est oui. Après, moi, ce que je trouve, ce qui va être intéressant à suivre, c'est que ils ont intérêt à tenir bon, le gouvernement, parce que s'ils font adopter cette réforme par le 49-3 pour céder derrière, alors là, le quinquennat est fini. Je peux dire qu'ils peuvent tous démissionner en bloc et voilà.
Quel serait l'intérêt de passer au 49-3 pour céder derrière?
Ils vont avoir une pression assez forte. Est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour tenir face à cette pression? J'en suis pas certain.
Eh bien, on va poser la question à Benjamin Morel, qui est notre invité sur ce débat, docteur en sciences politiques et maître de conférences à Paris 2, Panthéon Assas. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On revient sur les événements d'hier soir. Tout d'abord, pour vous, Benjamin, est-ce qu'elle était prévisible, cette violence qu'on a vue dans plusieurs villes de France?
Elle était peut-être pas prévisible d'aussitôt, mais on pouvait s'attendre en effet à ce que la violence, tout d'un coup, se manifeste. Il faut voir que dans une grande partie du mouvement social, l'idée que, avec assez peu de manifestants, finalement, au moment de la crise des Gilets jaunes, les choses aient pu être obtenues, alors que là, avec 1 300 000, 1 400 000 personnes dans la rue, rien n'avait été obtenu, était quelque chose qui était un peu un poison lent. Du coup, tend à faire de la violence pour certains manifestants une option. Il ne faut pas oublier comment la crise des Gilets jaunes, vous aviez 25% à peu près des Français qui jugeaient comme légitime la violence dès lors qu'elle pouvait permettre d'obtenir quelque chose, qui montre qu'aujourd'hui, il y a un terrain dans l'opinion.
Pour vous, Benjamin Morel, cette violence a été un accès de violence hier soir et là c'est terminé? Ou alors, justement, on peut s'attendre à d'autres violences et peut-être même encore plus importantes, peut-être ce week-end et peut-être même à partir de jeudi, parce que c'est la date de la prochaine mobilisation?
Alors on peut s'attendre à ce qu'on ait de nouvelles violences. Tant que les syndicats tiennent la chose, je dirais que les violences peuvent être contenues. Si jamais les syndicats sont débordés, si jamais les syndicats sont trop fragilisés dans ce mouvement, ou si on a des mouvements qui arrivent à côté du mouvement principal, là, à ce moment-là, il devient très très compliqué de tenir les troupes, parce que tout bêtement, il n'y a pas de service d'ordre, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Or là, quand même, le 49 alinéa 3, si cette réforme, et c'est probable, passe lundi, ça signifierait un échec de la stratégie classique des syndicats, qui peut conduire à la fois certains de leurs membres, mais surtout certains manifestants, ou certaines formations qui se greffent à ces manifestations, à rentrer dans des modes alternatifs d'action.
Bah, merci beaucoup, Benjamin Morel. On a des problèmes sur la ligne avec Benjamin Morel. Merci d'avoir été notre invité sur ce débat. On va écouter Philippe. Philippe, c'est un habitué de l'émission qui nous appelle de Saint-Germain-les-Arpajons et qui est professeur des écoles. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Et félicitations à M. Morel, il est toujours bon Morel. Hein
bah, oui.
Quand
je suis
on a un bon expert, il faut le garder. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais il est pertinent.
Ouais, mais là, malheureusement, la ligne était mauvaise. Mais sinon, on l'aurait gardé tout longtemps.
Si le gars est bon, c'est l'essentiel.
Exactement. Philippe, vous êtes inquiet ou pas de tout ce qui se passe là en ce moment?
Franchement, vous êtes étonné, vous, que ça se passe comme ça?
Non, mais c'est pas un problème d'étonnement.
Non, mais vous avez, poliment, des fouteurs de merde professionnels qui sont là à chaque fois depuis Hollande pour discréditer tout mouvement social. Ces gens-là bénéficient, pour la plupart d'entre eux, d'une extrême mansuétude de la justice. Et parfois des gens chargés de les arrêter. C'est quand même étrange, vous avez vu, pour discréditer les gilets jaunes, ça a parfaitement fonctionné. Donc cette poignée hier qui a fait des images spectaculaires pour effrayer le bourgeois, bon, ça marche bien.
Ce sont les bourgeois déjà d'ailleurs. Mais c'est les petits black blocs et tout.
On a des cas précis.
Non mais il y en avait, mais il n'y avait pas que ça.
Il y avait pas que ça.
Au bas mot, il y avait 5000 personnes. Il n'y a jamais 5000 black blocs.
Il y avait quelques dizaines
de black blocs qui sont reconnaissables. Ils étaient habillés tout en noir, cagoulés, et qui ont pris des pavés, qui ont incendié. Mais il n'y a pas que des black blocs.
Voilà. Et parmi les gilets jaunes, il y a eu des mouvements de violence aussi à la fin, et c'était pas forcément des black blocs. Donc on ne peut pas dire que c'est des petits bourgeois. Enfin, voilà,
non, mais ce moment-là n'a rien à voir avec les gilets jaunes.
Non, mais
celui d'hier n'a rien à voir.
Non, peut-être, mais en tout cas,
c'est pas du tout la même population.
Parmi les mécontents, t'avais pas que des black blocs. Il y a aussi des Français qui sont extrêmement mécontents. Encore une fois, ça ne justifie pas la violence, mais il y a des Français mécontents. Mais pour vous, en tout cas, Philippe, bon, c'est pas inquiétant.
Il
y a un peu de violence, c'est basta, quoi.
Les black blocs, ils ont rien à foutre de rien. Ils sont là pour casser. Ils sont manipulés par les pouvoirs successifs. C'est pas possible autrement.
Mais hier, c'était pas que ça. C'était pas que ça.
On trouve n'importe qui en pleine forêt amazonienne et on peut pas les retrouver. C'est pas sérieux. Me dites pas ça. Non, mais franchement, avec les bornages et tout, les caméras de vidéosurveillance, c'est bon. Déjà, ça, c'est une poignée qui est là, qui, à mon avis, est manipulée. Et on sait pas qui y a sous les cagoules. Hein. On peut se poser aussi des questions. Ceci dit, le pays est mécontent. Oui, il y a des gens extrêmement mécontents. Mais ça date pas d'hier. Ça date pas du 49-3. Ça fait 6 ans que ça dure. Quand vous êtes élu par défaut avec aller à une base électorale, on va dire de 20-22%, au bout d'un moment, quand vous parlez mal aux gens, quand vous les méprisez, au bout d'un moment, c'est rien d'étonnant, c'est logique ce qui se passe. Et c'est pour les retraites, ça va être pour n'importe quoi après. Ce pays est actuellement ingouvernable. Voilà.
Ouais, mais ça, c'est la question qu'on peut effectivement se poser. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot finalement de mépris dans la bouche de nos auditeurs qui appellent et qui disent voilà, on a été traité par le mépris et donc voilà, ça a engendré de la violence.
Il faut savoir de quoi cette violence est le nom. Elle est le nom d'un profond malaise social, notamment. Elle est le nom de ce mépris dont tu parles, Estelle. Enfin voilà, elle porte tout ça. Mais après, tout ça va faire forcément le jeu de l'extrême droite, puisqu'on va montrer des policiers tabassés, on va montrer des voitures qui brûlent. Et donc ça va faire le jeu des extrêmes, forcément. Enfin tout le monde récupère tout. Enfin tout le monde.
Pas des extrêmes d'ailleurs, parce que je pense que le RN a eu l'habileté de se positionner. En partie de position raisonnable.
Toi, tu disais que ça allait faire le jeu de Macron tout à l'heure.
Oui, mais je pense que si demain il y a une dissolution, je pense que c'est plus le RN qui tire les marrons du feu que la NUPES. Après, moi j'entendais quelqu'un, je sais plus qui tout à l'heure dire l'enjeu c'est de savoir si les syndicats vont réussir à ne pas être débordés par leur base. Je pense que l'enjeu c'est aussi qu'ils soient pas débordés par leur sommet. Parce que moi j'entends certains leaders de la CGT qui font des appels à la radicalisation, qui sont pas très 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 éloignés d'appel à la violence. On est vraiment sur une ligne de crête.
On est tout à fait d'accord. On va terminer avec des messages. Rémi, s'ils sont lisibles, bien sûr.
Oui, alors j'en ai un qui est lisible. J'en ai au moins un qui est lisible. Ah. Le reste, encore une fois, c'est vraiment des appels à la violence. On n'est pas là pour ça. Bonjour, je pense que vous ne comprenez pas l'exaspération des gens. Voilà ce que nous dit Hélène. Les gens sont à bout dans leur vie de tous les jours, au boulot. Mais n'oublions pas la révolution, mai 68, etc. Je crains que cela ne fasse que commencer. La vie, ce n'est pas Disney.
Mais vous pouvez être exaspéré vis-à-vis de votre conjoint, de votre collègue de bureau. C'est pas pour ça qu'il est légitime de lui coller une tarte.
Oui, ou de brûler sa poubelle. Rémi, le résultat de notre sondage sur Twitter, le compte @estellemidi.
Il est révélateur de ce qu'on définissait, hein, d'une ambiance quand même qui est assez délétère, on va dire. 66% des personnes interrogées sur nos réseaux sociaux ne sont pas inquiets.
Oui, bah donc c'est une majorité qui ne sont pas inquiets.
Oui, mais alors moi je le traduis.
Deux tiers de nos auditeurs et de nos téléspectateurs ne sont pas inquiets.
Oui, mais on peut le traduire aussi d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il y a des violences, mais ça ne m'inquiète pas. C'est ce qu'on a entendu à l'antenne.
Il faut relier ça au fait qu'ils envoient eux-mêmes des messages violents.
Non, moi je me dis, êtes-vous inquiet? Non, parce que ça va s'arrêter. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
Il y a deux interprétations.
Bon, on a mal posé la question. Bon, ouais. Écoutez, dans un instant, on se demandera si toute cette affaire est un fiasco. Et puis vous verrez comment toutes ces violences, tout ce qui se passe aujourd'hui en France est perçu à l'étranger. C'est assez étonnant. On en parle dans un instant dans Estelle Midi. Continuez à nous appeler au 3216 et à nous envoyer des messages sur l'appli RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 33 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Rémi Barré, Laurent Dandrieu, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Dans un instant, on continue à parler des violences suite à la réforme des retraites adoptée avec un 49-3. Mais avant cela, on va jouer et on va vous faire gagner de superbes cadeaux, Rémi.
Oui, sur RMC, nous vous offrons avec Total Energy, le sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023, vos places pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Oh, pour une autre très belle affiche. Dès que vous entendez ça, à partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour jouer en envoyant coupe par SMS au 732-16, coupe par SMS au 732-16. Et le nom du gagnant sera dévoilé tout à l'heure dans le Super Moscato Show.
Allez, on continue à parler de la réforme des retraites, de cette adoption hier, de ce recours hier au 49-3. On l'a dit, il y a eu des manifestations assez violentes un petit peu partout en France, sous les yeux parfois de touristes médusés. D'ailleurs, Rémi, comment ces manifestations, comment la situation française est vue à l'étranger?
Mais la situation, elle est vue sans pitié pour l'exécutif et pour le gouvernement. Le recours au 49-3 annoncé hier est largement condamné. Le New York Times estime ainsi que cette décision va certainement enflammer un peu plus le climat politique en France déjà lourd d'une confrontation tendue. Bon, ça n'a pas manqué. Hein. Le journal allemand Der Spiegel évoque, lui, une décision brutale, alors que le quotidien espagnol La Vanguardia y voit un signal de faiblesse politique. Ah oui. Le président français joue un poker géant pour le journal belge Le Soir et risque de finir comme un canard boiteux. Voilà ce que dit le quotidien britannique The Guardian. Le même Guardian, journal de gauche, un pro-travailliste en Grande-Bretagne, salue à l'inverse le sacré combat mené par les syndicats français et salue également leur unité.
Ça fait plaisir d'être bien dans cette belle image à l'étranger.
Ce qui est bien, c'est que les touristes, si jamais ils sont menacés par des violences, ils peuvent s'abriter derrière des tas de sacs poubelles.
C'est important. Et est-ce que c'est un total fiasco ce qui s'est passé hier, Laurent Dandrieu?
Oh bah oui, je pense qu'effectivement on peut dire que c'est pas ça ne restera pas un cas d'école de brillante manœuvre politique, cette réforme des retraites. C'est quand même une catastrophe absolue. Moi je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on... Macron n'avait pas repris le projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup moins choquant
de 2019,
de son premier quinquennat, qui serait passé beaucoup mieux à mon sens, même si un projet de réforme des retraites, ça ne passe jamais bien par définition. Ce qui me paraît certain, c'est que effectivement le quinquennat en tant que possibilité de gouverner me semble avoir maintenant une toute petite fenêtre de tir qui est très faible, qui est qu'il faut qu'il réussisse à tenir bon sur cette réforme, parce que s'il lâche après ce fiasco, je pense que le quinquennat est terminé, il n'y a plus qu'à baisser le rideau et à passer à la suite. Donc ça sent pas très bon. Est-ce que Elisabeth Borne doit démissionner? On en parlera plus tard.
Voilà, exactement. Est-ce que c'est entièrement de la faute du gouvernement, tout ce qui se passe, Emmanuel Dancourt, ou les syndicats notamment ont aussi un rôle là-dedans?
Moi, c'est ce qui attire mon attention, pour être tout à fait honnête, c'est les Républicains. Parce qu'on a des Républicains qui sont scindés, on a deux groupes de Républicains, on va dire grosso modo, si je veux schématiser un peu, mais c'est ça, on a les anciens avec Éric Ciotti, on a les les nouveaux, les plus jeunes, avec Aurélien Pradier, et finalement, c'est les Républicains qui ont un peu, pardon de le dire comme ça, mais qui ont un peu foutu la merde aussi. Parce que c'est une réforme à la base qui portait, finalement, pas tant que ça, et les motions de censure. Moi, j'attends lundi avec une certaine impatience. A priori, on se dit que les motions de censure vont pas passer, mais après tout, on n'en sait rien.
On disait aussi qu'il n'y aurait pas de 49-3.
Il faut 287 voix, donc si la NUPES y va, si le RN y va, si le fameux LIOP, là, donc Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire y vont, il faut encore 30 députés LR, et aujourd'hui, il en manque 20. Donc on ne sait pas. Et est-ce que finalement la faute elle n'est pas à chercher du côté des LR? Entre en plus ils disent pas la même chose. Eric Ciotti il dit on votera aucune mention, et puis on a d'autres à côté qui quelques secondes après disent bah si nous on va voter. Pour moi, le point de fracture, il se situe chez les LR.
Je vais quand même revenir à ma question initiale, tout de même, parce que voilà. Fred Hermel, est-ce que pour vous, quand même, c'est entièrement la faute du gouvernement ce qui s'est passé hier, le fait d'avoir recours au 49-3 parce qu'ils ont mal mené cette réforme, ou ça, je veux dire, tout le monde s'accorde à dire que quand même, ils ont plutôt mal discuté, ils l'ont mal amené et ils l'ont mal expliqué. Mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs de la part d'autres camps?
C'est bien entendu, quand tu es au gouvernement, que tu as quand même une majorité, pas absolue, mais relative. Ouais, c'était quand même, on dit toujours le gouvernement n'a pas de majorité. Si, le gouvernement a une majorité relative au Parlement. Que tu discutes pendant des semaines et des
175
semaines.
175 heures de discussion.
Voilà, et que tu n'es pas capable de faire les bons comptes et de rallier à ta cause une mesure qui est. Je suis un peu d'accord avec Emmanuel. Au départ, les LR, ils sont. Ça fait 30 ans qu'ils sont pour l'abaissement de l'âge de la retraite, quoi. Donc, là aussi, politiquement, ils n'ont pas réussi leur coup. Mais finalement, ce quinquennat le premier et le deuxième est marqué par le manque d'expérience politique des gens qui composent. C'est-à-dire qu'il y a.
Ça, c'est la faute d'Emmanuel Macron, excusez-moi.
Mais bien sûr,
il faut aussi prendre des fainéants parce que vous allez prendre des.
Bébés,
quoi.
Ben voilà, il a pris des techniciens parce que l'État, c'est moi, comme disait
Bécatore. Les bébés, c'est Olivier Dussopt?
Voilà.
Non, mais pas du tout. Non, mais des gens avec moins d'expérience.
Mais bien sûr, parce que la société civile, c'est très bien.
Le cabinet de conseil, ça fait pas tout. Quand vous avez expliqué une réforme des retraites aux Français.
De jeunes représentants de la société civile, c'est très bien pour l'image, sauf que dans le combat dur de le combat de tranchée de la politique, les mecs sont pas préparés. Quand on a vu, par exemple, lors de la défense des retraites, l'ancien ministre de la culture, dans le nom de
Franck Riester,
qui s'est écroulé devant Aurélie Cass ici, dans cette maison sur BFM TV, qui ne connaissait pas bien la réforme, qui s'est expliqué par un journaliste la réforme et qui est incapable de dire combien de personnes vont bénéficier des 1200 euros. Enfin, je veux dire, la politique est un combat aussi. Il faut y aller armé.
C'est pas que les technocrates.
Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont pas assez préparés. Donc, oui, le fiasco, il est avant tout du fait de ce gouvernement et surtout du président de la République. C'est lui qui a choisi les gens qui sont là, donc.
Mais il y a eu des fiascos de communication évidents, mais la base du problème, c'est que le projet lui-même à la base était mal ficelé et que donc ils se sont emmêlés les pinceaux, d'autant plus volontiers qu'ils avaient à défendre un texte qui donnait l'impression d'être improvisé, incohérent et pensé dans l'urgence. Donc c'est ça l'erreur de base, c'est effectivement d'avoir on a l'impression que après la réélection d'Emmanuel Macron, ils ont bricolé dans l'urgence une nouvelle réforme des retraites qui n'était pas la même que celle du coup d'avant et qu'elle a été pensée trop vite et trop mal.
Mais après, Olivier Dussopt, est-ce qu'il avait les épaules, même s'il est très bien, il tient la barre, etc., est-ce qu'il avait les épaules pour mener cette réforme qui, normalement, est la réforme phare d'Emmanuel Macron? Est-ce que tu pouvais pas aller chercher un ténor à la base, pour mener cette réforme, et quelqu'un, un personnage qui puisse être aimé des Français, pour mener ça à bien? C'est aussi une question
qui se pose. Et puis, il y a un truc, Macron avait un allié merveilleux. L'un des mecs les plus intelligents de l'espace public français, c'est Laurent Berger. Laurent Berger, vous vous souvenez Nicole Nota,
qui
est SFDT, qui négociait avec le gouvernement. Elle a négocié avec Sarko. Laurent Berger était le guide, en fait.
Mais oui.
Était le guide. Et Macron, là aussi, il l'a méprisé. À un moment, il l'a méprisé. Et ça se paye dans la rue. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Cette incapacité à faire confiance à des gens qui connaissent le monde du travail, qui sont appréciés du peuple, qui apportent. Vous vous souvenez, Sarko et Nicole Nota, tu dis c'est pas possible ensemble, et pourtant ils ont travaillé ensemble. Tu vas pas me dire que Macron, qui est quand même un mec de droite, faut pas arrêter, c'est un libéral.
Oui.
Je veux dire, c'est un libéral, c'est-à-dire que s'il peut pas négocier avec un syndicat réformiste comme la CFDT. Donc à partir du moment où la CFDT a été à côté de la CGT, ouais, c'est qu'il y avait un problème. Ouais.
Et d'ailleurs, Laurent Berger est peut-être le grand gagnant de cette réforme des retraites, parce que genre, on a vu que lui, il a plutôt crevé l'écran. On va terminer avec Amadou, qui nous appelle de Nogent-sur-Marne et qui est commercial. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Bonjour.
Amadou, c'est un très bien Amadou. C'est un fiasco pour vous ce qui s'est passé là, hier?
Un fiasco total. Entre le porte-parole du gouvernement Véran, Elisabeth Borne qui faisait le tour des médias, la tournée des médias en début de semaine pour nous expliquer, vous inquiétez pas, on aura une majorité, on n'a pas de joker, carte joker 49-3 dans la manche, donc du coup pas besoin de recourir au 49-3, on a une majorité avec le vote LR, et au final on arrive à un 49-3 qui est tellement violent. Moi, tout à l'heure, vous parlez du débat sur la violence dans la rue. Moi, je comprends. C'est-à-dire que moi, je ne tolère pas la violence dans la rue. Je trouvais, j'ai vu des images. Franchement, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de violence. Mais moi, je comprends les gens qui ont commis des violences, parce que cette violence-là, pour moi, c'est une continuité avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes depuis 2018. Macron, c'est un destructeur social. C'est quelqu'un qui, justement, qui, depuis son mandat, il a pas arrêté, justement, de matraquer le côté social.
C'est un peu dur ce que vous dites, parce qu'il a multiplié l'échec, quand même, ces derniers mois, pour aider les Français face à l'inflation. Il a aidé les entreprises pendant le Covid. C'est un peu dur de dire ça, quand même, Amadou. L'échec, ce sont
l'échec passager. Les cadeaux qu'il a fait au patronat, ce sont des cadeaux qui sont dans le temps.
Mais la taxe d'habitation aussi dans ces cas-là, Amadou. Taxe d'habitation pour les Français à la fin de la redevance.
L'échec, le quoi qu'il en coûte, au bout d'un moment, il a laissé arrêter. Ça n'allait pas être un quoi qu'il en coûte.
Encore
heureux, parce que c'est avec nos impôts. Donc ça n'allait pas être un quoi qu'il en coûte avant, jusqu'à la fin de son mandat. Donc il a passé son temps à matraquer le côté social entre le truc sur le chômage, là. La loi qu'il a fait passer, justement, par rapport au travail. Les 5 euros d'appel. Justement l'augmentation du carburant avec ce qui a poussé les gilets jaunes dans la rue.
Mais ça c'est pas Emmanuel Macron qui a fait augmenter le carburant.
La réforme de retraite. Mais si, l'augmentation du carburant là en 2018 quand il a voulu le faire l'augmenter avec Édouard Philippe et ensuite les gilets jaunes sont sortis dans la rue, c'est Macron, c'est pas Macron.
Non, pas du tout. Les carburants augmentent, ils ont augmenté partout. Il y a plus de taxes en France, je suis d'accord, mais là aujourd'hui ce que vous dites, je comprends,
moi je suis de gauche, moi je comprends le côté écologique. Qui c'est justement
la taxe
passé, c'était la taxe
oui c'est
carbone,
les taxes supplémentaires justement. D'accord
je comprends mais c'est lui qui a voulu la faire passer, ça a sorti les gilets jaunes dans la rue. Je vous le dis, depuis le début de son mandat il matraque le côté social. Macron ce qu'il prépare, c'est la venue de Marine Le Pen en 2018. Moi je ne vois
pas que ce soit son souhait.
Je ne voterai jamais Marine Le Pen, mais s'il continue, vous allez voir, il va pousser des gens dans les bras de Marine Le Pen. Moi, jamais je ne voterai Marine Le Pen si je combats ce parti-là, mais je vous dis qu'il y a plein de Français. Moi, je connais plein de gens qui, aujourd'hui, ils se disent que pourquoi pas ce vote-là?
J'entends les médias, franchement,
je vous dis un truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous aussi, commencez à m'énerver, les médias, parce que vous passez votre temps à taper sur la gauche en disant oui c'est Mélenchon qui pousse les gens à commettre la violence.
Il faut pas toucher Marine Le Pen, faut pas machin.
Mais par contre elle, vous continuez à la faire monter en l'aidant avec l'aide de Macron.
Ça, c'est pas le but, hein.
Justement à attaquer le côté social des Français, et elle va arriver tranquille en 2027, quand elle va arriver on va nous expliquer que c'est à cause de l'immigration qu'elle arrive au pouvoir. Bon. Alors que c'est à cause du côté social qui fait que depuis 10 ans, Macron a tapé sur le côté social qui a fait que les gens ils sont partis voter pour Marine Le Pen.
Merci beaucoup Amadou. En tout cas, le coup de gueule d'Amadou aujourd'hui dans Estelle Midi. Dans un instant, on va parler d'un petit peu autre chose. On va vous faire des économies. Grâce à Anthony Morel qui va nous parler de nouvelles applications pour améliorer votre pouvoir d'achat. Et puis juste après, à 13h, on se demandera si Elisabeth Borne doit démissionner. On attend vos appels, vos réactions au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
1050 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. Et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel sur le plateau. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, vous allez nous dire comment faire pour augmenter notre pouvoir d'achat et faire des économies grâce à de nouvelles applications.
Bah oui, un smartphone, ça sert à tout, même à augmenter le pouvoir d'achat. Et je vais essayer de vous faire une petite série de chroniques comme ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Et il y a des dizaines d'applications dont certaines ne sont pas forcément très connues. Alors on va commencer par le plus basique, on va aller vers des choses un peu moins connues. Le plus basique, c'est les comparateurs de prix. J'espère que vous les utilisez, parce qu'il y a vraiment des trucs qui se sont réinventés en plus ces dernières années. On peut citer Quelqu'un, Prixing. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Achat moins cher. Oui, il y a ça aussi, absolument. Mais c'est plus pour les voyages, non, au Podo aussi, j'ai pas de bêtises. Voilà. Pour les produits de consommation, Achat moins cher, par exemple, fonctionne très très bien. Hyper pratique. Donc, soit vous tapez le nom du produit, vous pouvez même scanner un code barre et il va vous proposer, en fait, en vous géolocalisant, tous les produits les moins chers dans les supermarchés autour de vous ou sur les sites internet.
Voilà. Ouais, mais enfin, si j'ai de la moutarde moins chère à Carrefour, alors, le pain moins cher à Monoprix et que je dois acheter des cornichons moins chers à Intermarché, au niveau du carburant, je m'en sors pas.
Alors, quoi. Vous avez tout à fait raison. Et alors, il y a une autre solution pour ça, c'est l'UFC Que Choisir qui a mis en place un site, une carte interactive des drives les moins chers. Et pour le coup, ça fonctionne par panier moyen. Donc vous voyez en fait autour de vous le drive qui va vous coûter le moins cher et vous pouvez même faire le classement rayon par rayon. Donc là, vous pouvez avoir un avis vraiment éclairé faire des vraies économies. Donc voilà, ça c'est une première solution. Ensuite, il y a une fois qu'on est passé à la caisse, vous avez toutes les applications qui vont vous rembourser une partie des courses. Le principe.
C'est fastidieux ça.
Bah, c'est plus facile qu'avant. Franchement, ça va, quoi. C'est-à-dire que vous avez des applications. Alors, je vous en donne quelques-unes. Vous avez ShopMeHome, vous avez iGraal, vous avez Feedmark, vous avez Quoty, Q-U-O-T-Y aussi. Et en gros, le principe, c'est, vous allez sur l'application, on va vous proposer toute une série de produits. Donc, un saucisson, une sauce tomate, des capsules de café, des couches, etc. Et une fois que vous les avez achetés, que vous êtes rentré chez vous, vous avez juste à scanner votre ticket de caisse. Et en fait, vous allez être recrédité automatiquement de, alors, ça peut être 10, 15, 20, 30% du prix d'achat sur PayPal ou sur votre compte en banque. Ça se fait automatiquement en scannant le ticket de caisse. Ouais, c'est hyper pratique. C'est pour ça, je vous dis, franchement, c'est pas très compliqué et ça permet, si vous le faites à chaque fois, de faire des économies de plusieurs dizaines d'euros par mois. Alors après, vous n'avez pas le choix des marques, forcément vous devez prendre les marques qui sont en promotion, c'est le petit bémol, quoi.
Moi je me souviens de ma grand-mère qui mettait ses petits bons d'achat et qui l'envoyait par la poste.
Ouais, c'est vrai. Bah là c'est la nouvelle méthode. Alors il y a ce qu'on appelle le cashback, qui est un principe qui vient des États-Unis, qui existe en France, mais franchement il s'installe pas tellement, alors que franchement c'est un truc qui fait gagner de l'argent, concrètement c'est très facile à mettre en place et il y a plein d'applications pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous en donne quelques-unes. ShopMeHome, iGraal, Feedmark ou Quoty.
Il y a certaines applis aussi qui proposent de tester des produits et de les obtenir gratuitement en échange. Ça, c'est pas mal.
Alors ça, c'est très très bien.
Je voudrais tester une voiture, moi aussi.
Oui, alors c'est ça. C'est pas mal.
Moi, je voudrais tester des voyages.
Les voyages, ce serait bien aussi. Non, c'est plutôt sur des produits de consommation courante. Alors vous allez avoir des blancs de poulet, du shampoing, de la compote. Bah c'est pas mal déjà.
C'est sûr qu'on va les renvoyer après.
Oui, non, ça c'est vrai. Vous avez vu le prix des blancs de poulet. Enfin, si vous pouvez pas les payer, c'est pas mal. Alors le site s'appelle, l'application Mon Avis le rend gratuit et c'est très malin, très bon nom. En plus, on le retient très facilement. Et en gros, le principe, c'est que vous allez choisir des produits. Alors c'est pas illimité, vous pourrez choisir deux ou trois produits. Vous allez en supermarché, vous allez les avoir gratuitement grâce à un coupon. Et ensuite la contrepartie, c'est qu'il faut que vous donniez un avis sur le produit en question. Donc il faut que vous le notiez, que vous fassiez un petit paragraphe pour dire oui, le blanc de poulet c'était bon, c'était pas bon, parce que les marques, c'est ça qui les intéresse, c'est de savoir si ça vous a plu ou pas. Et une fois que vous avez fait ça, on va vous redonner des points qui vont vous permettre de réavoir de nouveaux produits gratuits dans les supermarchés. Mine de rien, quand vous cumulez ça plus le comparateur, plus les applis de cashback, vous vous retrouvez avec pas mal de pouvoir d'achat en plus.
Et je peux juste aller au supermarché acheter mon blanc de poulet, il est gratuit et je ressors sans avoir rien payé.
En fait, c'est ça. Alors, c'est encore une fois des marques particulières. Il faut passer par l'application. Là, vous avez une marque de compote particulière, une marque de shampoing particulière. Vous appuyez sur tester. On va vous faire un coupon et vous allez pouvoir aller retirer ces produits-là gratuitement.
Ça, c'est génial.
C'est
alors,
très malin.
Une dernière astuce pour tous ceux qui ont de vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs, c'est-à-dire nous tous.
Ouais.
Les laisser au supermarché contre une ristourne sur le panier de course.
Alors ça s'installe de plus en plus. C'est Monoprix et Carrefour qui mettent ça en place dans des villes comme Marseille, Dijon, Caen, Narbonne, Antibes, et il y en a d'autres. Et donc ce sont des bornes où vous arrivez avec un vieux téléphone, il y en a 100 millions qui traînent dans nos placards, vous le branchez à cette borne, il va détecter et analyser le modèle dont il s'agit. Il va analyser s'il y a des petites fissures, des cassures, le verre brisé, etc. Il va vous faire une estimation du prix. Alors c'est pas des estimations incroyables, ça va être quelques dizaines d'euros peut-être. Peut-être plus si c'est des modèles un peu plus récents. Vous dites oui ou non. Si vous dites oui, la borne garde votre téléphone et vous avez un bon d'achat que vous allez pouvoir utiliser directement
et
dans le supermarché. Alors
c'est
je vous dis, il y a différentes villes, oui, ça va de Marseille à Antibes. Enfin, vous regardez.
Il n'y a pas Dijon.
Si, il y a Monoprix à Dijon.
Je vous donne le nom des bornes, comme ça vous pourrez chercher sur internet. C'est Echo ATM, ATM comme les distributeurs automatiques aux États-Unis, ATM, et c'est en partenariat avec Back Market, spécialiste du reconditionnement de smartphones. Très malin également pour avoir un petit supplément de pouvoir d'achat pour faire ses courses.
Super chronique, Anthony, et merci. Merci voilà, pour toutes ces bonnes nouvelles pour notre pouvoir d'achat. Et si vous voulez réécouter la chronique d'Anthony pour noter toutes les références qu'il a données, bah, vous n'hésitez pas. Vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC ou toutes vos applis de téléchargement. On parle de quoi lundi, Anthony?
Ah bah, vous parliez de voiture gratuite. Je vais vous présenter une voiture très particulière lundi. Une voiture, si vous ne payez pas vos mensualités, elle retourne toute seule chez le concessionnaire.
Ah, c'est génial.
C'est la voiture qui vous punit. La voiture qui vous punit.
Ah, c'est bien.
Brevet déposé
et
par.
On peut faire ça pour les enfants, vous savez.
Oui, c'est ce que j'ai tenté de penser.
Je m'enseigne.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Anthony Morel, tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera d'Elisabeth Borne, la première ministre fragilisée par le 49-3. Doit-elle démissionner? Tous vos commentaires, vos réactions au 32-16. On vous attend. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.